à travers la manifestation de l'amour à la croix. En théologie mystique, je découvre à travers l'amour le mystère d'incarnation. Puisque la rédemption, la croix, est la grande manifestation d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour celui qu'on aime. D'un amour qui implique le don de vie, le don total de tout ce que nous sommes. Et par le fait même, c'est la même chose pour l'Eucharistie, et par le fait même, ce don implique le mystère d'incarnation. Pourquoi ? Parce que Dieu seul peut se donner substantiellement. Il n'y a qu'en Dieu où l'amour est substantiel. Nous ne pouvons pas nous donner substantiellement. C'est pour ça que le don des corps symbolise l'amour, mais n'est pas l'amour. Il ne faut jamais l'oublier. C'est la base de toutes les erreurs, oui. Parce que si le don des corps était l'amour, le faire un vœu de chasteté, se consacrer au Seigneur dans un esprit de virginité, il faudrait qu'on serait des pauvres types qui ne connaîtraient pas l'amour. Ce n'est qu'une symbolique, ce n'est qu'une manifestation. L'amour n'est parfaitement lui-même que quand il est spirituel. Il est substantiel en Dieu. Le don des corps est second, n'est pas premier. Donc il n'est pas l'amour. Parce que l'amour est toujours premier. C'est le propre de l'amour, c'est le premier. Autrement, il n'est plus l'amour. Puisque le propre de l'amour, c'est d'être à soi-même sa propre mesure. C'est très important de comprendre ça. Alors, évidemment, là, nous le voyons tout de suite. Je me souviens, c'est un vieux souvenir, sitôt la guerre, quand je suis arrivé à Fribourg, le premier Noël que j'ai passé, c'est à Combloux. On m'avait demandé, certains que je connaissais, qui étaient des jeunes qui avaient fait le maquis pendant la guerre, qui étaient plus ou moins malades, blessés. Et il y avait une grande réunion là, ils étaient tous là, à Combloux. Dans le maquis, il y avait tout un groupe très important de marxistes, communistes et marxistes. Et puis c'était catholique. Alors évidemment, je suis arrivé en dominicain, au milieu de ce groupe. On a passé un Noël merveilleux, étonnant. Petite chapelle. À travers la neige, dans la neige. Et les catholiques avaient demandé qu'on puisse faire des conférences sur le mystère du Christ et donc de la croix. Et les marxistes étaient invités. Ils étaient là avec les autres, il n'y a pas de raison qu'ils sont pas là. C'était nombreux, c'était à peu près la moitié. Ils sont tous venus à la messe de minuit. Pour la plupart, c'était la première fois qu'ils assistaient à une messe. Je me souviens encore, parmi les bons catholiques, il y en a eu un qui s'est mis à chanter Minuit chrétien. Une voix tellement romantique, c'était affolant. Parce que ça allait tellement mal dans le contexte. N'avez pas compris. Alors, la réaction des marxistes, au fond, votre Dieu, il s'est suicidé. Il a offert sa mort, il a offert sa vie, il s'est suicidé. Comment voulez-vous qu'on puisse offrir sa vie sans suicide ? très loin, et en effet, pour comprendre que ce n'est pas un suicide, il faut comprendre qu'il est Dieu. J'ai le pouvoir d'offrir ma vie et de la reprendre. Et c'est pour ça que le Père même, grâce en Saint Jean, qui est très forte. Alors ceci, c'est pour vous montrer, voyez, que le traité de Saint Thomas, que nous allons voir maintenant, introduction au traité de Saint Thomas. Le traité de Saint Thomas arrive au XIIIe siècle de chrétienté. 13 siècles de réflexion pour aboutir au traité de Saint Thomas. Et nous, en blanc bec, on arrive, on lit ça. Ah, c'est que ça. Alors, il faudrait 13 siècles d'études pour aboutir à Saint Thomas et voir ce que ça représente. Et c'est vrai, ça, ce que je vous dis là. Et c'est comme un achèvement extraordinaire. La cathédrale de Chartres. Mais il y a trop de Chartres. C'est analogue. C'est de cette qualité-là. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine d'y entrer. Ça va, c'est sûr. Alors c'est pour ça que je vous ai indiqué des voies plus rapides, plus proches de vous. Théologie biblique. Il faut que tous nous ayons soif de nous construire à nous-mêmes une petite théologie biblique. Il faut être un théologien de théologie scientifique pour pouvoir construire à soi-même une théologie biblique. Les exégètes apportent la disposition, mais pas plus. C'est pas l'exégèse qui donne l'ordre de la théologie biblique. Non, impossible. Parce que les exégètes sont tous des scientifiques et donc tous se particularisent. Je suis l'exégète de Saint Paul, je suis l'exégète de Saint Jean, je suis l'exégète d'Isaïe, je suis le spécialiste de l'Épître aux Hébreux. Je suis... Ben quoi ? Très bien, très bien. Tout ça c'est très très bien pour la science, mais c'est pas vrai la sagesse. La sagesse est une. Il y a une théologie. Approches multiples. Le pluralisme vient des approches, vient pas de l'unité de la théologie. Donc c'est le théologien, le théologie scientifique qui doit pouvoir organiser, je dis bien organiser, cette sagesse, cette partie de la sagesse qui est la théologie biblique. Alors je vous ai donné tout à l'heure, c'est dans la lumière du mystère du Christ et de Marie que je dois ordonner toute la théologie biblique. Ensuite, théologie mystique, plus implique la théologie scientifique, mais il dit autre chose. Alors maintenant, théologie scientifique, telle que Saint Thomas nous le donne. Alors, on voit tout de suite que le théologien de théologie mystique s'occupe des conciles, surtout quand il s'agit du Christ. C'est pour ça qu'on vous les donnait. Apprenez ça par cœur. Concile d'Éphèse. On a oublié de vous mettre les dates. Vous les mettrez, je ne sais pas par cœur, hélas. Qu'est-ce qu'il sait, les dates par cœur ? Vous l'avez ? Dans la seconde partie ?
Non, non, c'est sur la même feuille, mais c'est à droite.
Ah, c'est à droite, là. Oh, très bien, excusez-moi, alors. C'est très bien, oui. 431, oui, oui. Oui, je croyais que c'était les pages. Oui, regardez bien les dates. Et intéressez-vous à ça. Et le contenu. La théologie scientifique présuppose tous les conciles. Elle ne part pas directement des Bibles. Elle part des conciles. monde que pour nous, on ne peut pas se contenter de Saint-Thomas, il y a le Concile de Trente. Il y a le Concile Vatican II. Si nous voyons Saint-Thomas, c'est parce que Saint-Thomas est un chef-d'œuvre de théologie scientifique. Mais on ne pourrait pas rééditer Saint-Thomas comme ça, en théologie scientifique. Alors, y a-t-il un changement ? Le Concile de Trente ajoute-t-il quelque chose sur le mystère du Christ ? Vatican II ajoute-t-il quelque chose sur le mystère du Christ ? Comme sous l'Ancien Testament, au témoignage de saint Paul, par suite de l'impuissance du sacerdoce lévitique, il n'y avait pas de sacrifice parfait. Il a fallu, d'après une disposition de Dieu, le Père de miséricorde, que se leva un autre prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, notre Seigneur Jésus-Christ, capable d'amener à la plénitude et de rendre parfait ceux qui devaient être sanctifiés. Lui, notre Dieu et Seigneur, doit donc s'offrir lui-même une fois pour toutes, mourant en intercesseur sur l'autel de la croix. Donc, c'est par rapport au sacrifice du Christ. Précision nouvelle. Ce que saint Thomas dit, du reste, est quand même intéressant. Concile Vatican II. Il est l'homme parfait qui a restauré dans la descendance d'Adam, la ressemblance divine, altérée dès le premier péché. Parce qu'en lui, la nature humaine a été assumée, non absorbée. Par le fait même, cette nature a été élevée en nous aussi à une dignité sans égale. Car, par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Très fort, et c'est ce que dit saint Thomas, du reste aussi. Le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait, s'est lui-même fait chair, afin que homme parfait, il sauve tous les hommes et récapitule toutes choses en lui. Le Seigneur est le terme de l'histoire humaine, le point vers lequel converge l'oméga, le point vers lequel convergent les désirs de l'homme et de la civilisation, le centre du genre humain, la joie de tous les cœurs et la plénitude de leur aspiration. Donc il est le centre, il est le terme. L'alpha et l'oméga, on pourrait mettre au commencement. Il récapitule toute l'histoire. Alors vous voyez, une vision historique qui n'était pas dans saint Thomas du tout. C'est intéressant à noter. Théologie scientifique commence par les conciles. Mais comprenez bien, il y a un choix. Il ne va pas donner un ordre historique des conciles. Les conciles sont étudiés dans la théologie de l'Église. C'est le lieu propre. Les conciles sont étudiés dans la théologie de l'Église. Et donc de l'histoire de l'Église. Et ils émergent de la tradition. Et des grands moments de l'Église. Tandis que le théologien de théologie scientifique va l'ordre est inverse de la théologie mystique. Par la rédemption, je vois l'incarnation. Ici, j'étudie directement l'incarnation en soi. Pourquoi je peux le faire ? Parce que je suis en théologie scientifique. Pour connaître l'opération propre du Christ, la rédemption, la croix, il faut que je connaisse celui qui opère. D'où connaître ce qu'est le Christ. Y a eu le glissement. Et tout le souci, c'est saint Thomas, c'est de nous donner l'intelligibilité autant qu'on peut l'avoir de ce mystère de l'union hypostatique. L'union hypostatique étant justement les deux natures, nature humaine, nature divine, dans l'unité du Verbe. Le Verbe s'est fait chair. Egeneto sarx. Il est devenu chair. Prologue de saint Jean. C'est extraordinaire cette parole. Et c'est cette parole qui éclaire le concile d'Éphèse. Et deux en un. Sans aucune division en Dieu. Sans aucun apport nouveau. Mais les deux en un. Les deux en un ne peuvent être que par la personne. C'est la personne qui est la clé de voûte de ces deux personnes. Alors pourquoi, et ça c'est tout l'effort de saint Thomas, pourquoi seule la personne permet cette unité des deux natures? La nature se situe au niveau de la vie. Et la personne se situe au niveau de l'être. Allez trouver ça. C'est pas si commode que ça, parce que il y avait pas mal d'erreurs, et puis il n'y avait pas une véritable métaphysique de la personne avant saint Thomas. Saint Thomas est le premier qui a donné une métaphysique de la personne. Et c'était tellement nouveau que la scolastique n'en a plus parlé. La scolastique décadente. On n'a pas mis le traité de la personne en métaphysique. Donc on l'a laissé en anthropologie. Regardez les traités scolastiques de la métaphysique. Vous ne voyez jamais le chapitre sur la personne. Même le père Gardeil, quand il fait sa petite métaphysique thomiste, il n'a pas mis ça. Alors que là, c'était tellement simple de le mettre. Mais ça montre l'originalité de la pensée de saint Thomas, d'avoir compris que si le concile, que si l'Église, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, dit de nature en une personne, c'est génial. Parce que les deux natures représentent les deux niveaux de vie. Il vit comme un homme, il vit comme un Dieu. Dans l'unité de personne, il n'y a aucune impossibilité métaphysique. C'est ce que montre le théologien. Il y a au contraire quelque chose de merveilleux au point de vue divin. C'est que Dieu se donne d'une manière toute nouvelle. Il ne peut pas y avoir une plus grande unité que l'unité personnelle. C'est ce que saint Thomas reprend à saint Augustin. Il ne peut pas y avoir une unité plus grande que celle qui est une unité personnelle. Et par là, saint Thomas précise le caractère propre de ce mystère. La nature humaine dans le Christ, elle vit en Dieu. Et si la nature humaine dans le Christ vit en Dieu, on comprend alors comment l'intelligence du Christ est irradiée immédiatement de la vision médiatique. C'est le meilleur argument. C'est qu'à cause de l'unité personnelle, il y a une unité parfaite dans l'ordre de l'être et dans l'ordre de la vie. Il y a les deux. Vous voyez, si vous ne voyez pas avec beaucoup de netteté la distinction entre l'être et la vie, vous ne pouvez pas comprendre que l'humanité sainte de Christ dans son intelligence atteint la vision béatifique. Ça ne peut se saisir et être intelligible qu'au niveau de l'être. Pourquoi? Parce que l'intelligence t'ordonnait à l'être. L'intelligence ne la saisit parfaitement que quand je la regarde du point de vue de l'être. Si je la regarde du côté voyez, on comprend autant qu'on le peut dans le mystère comment tout ce qui regarde l'être dans le Christ est un, parce qu'il n'y a qu'une seule personne. Tout ce qui regarde formellement la vie est deux, puisqu'il y a deux natures. Vous avez là un regard métaphysique, contemplatif, merveilleux sur le Christ. Et c'est parce que dans une philosophie néo-platonicienne où la distinction entre l'être et la vie ne sont plus vues parfaitement qu'on a laissé mélange. Mais il n'y a aucune raison de dire que Jésus a la vision béatifique, que la nature humaine du Christ a la vision béatifique, si je regarde l'intelligence uniquement du point de vue de la vie. Aucune. Si je regarde l'intelligence du côté de l'être, alors ça s'impose. Parce qu'il n'y a qu'un seul être en Christ. Il faut aller jusque-là pour me saisir cette rectitude extraordinaire que donne saint Thomas. C'est du fil à plomb. Alors évidemment, il ne reste rien pour l'imagination. Le traité, la première partie du traité de saint Thomas sur l'incarnation, c'est les ossements de d'Ézéchiel. Un petit bien, un petit doigt, une pot de fer. Il n'y a rien au point de l'imagination. Alors c'est rude. Je me souviens du bon père Régis, canadien, quand il avait terminé son étude au soir sur le traité du Dede Uno. Donc Dieu dans sa simplicité, Dieu dans sa... C'est une plonge, ce traité de Saint-Thomas, parce qu'il ne restait plus rien pour l'imagination. C'est vrai. Quand vous faites une étude sérieuse sur le mystère de Dieu, tel que saint Thomas nous la donne, c'est une purification radicale de l'imaginaire. Alors c'est rude. C'est très rude. C'est pour ça que la théologie scientifique est rude. Mais c'est pour ça que tous, on a cette impression, quand on faisait la philosophie, ah, c'était merveilleux, on s'enrichissait. On tombe en théologie. Pff, là 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 là. Tout l'imaginaire dégringole. Allons-y, jusqu'où ça va aller. Tout l'imaginaire dégringole en vue de la vision béatifique. Tout étant donné la vision béatifique, qui ne peut se comprendre que du niveau de l'être. Donc, voyez, je ne prends pas en détail le traité de saint Thomas sur le mystère de l'union hypostatique, c'est du reste parce que nous voyons ça d'ici. Mais c'est quand même très important. Si vous pouvez lire individuellement, lisez-le. Même si c'est très austère, c'est rude, mais c'est beau, c'est grand. Parce qu'on voit comment, dans sa sagesse, Dieu a voulu se donner le plus qu'il pouvait se donner. Première question que donne saint Thomas, les convenances de l'incarnation. Question magistrale. Vous voyez, alors, faites l'analogie là, parce que c'est intéressant pour avoir l'intelligence de ce très beau trait. dire ce qu'est Dieu en lui-même. C'est supprima pars. Tertia pars. On regarde le mystère du Christ. La donnée chrétienne. Il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Le Christ a existé. Je ne peux le saisir que dans la foi. L'existé du Christ et ce qu'est le Christ, je ne saisis que dans la foi. Même quand je dis de Socrate à Jésus, n'est-ce pas? Eh bien, je ne peux pas saisir le Christ d'un point de vue philosophique. Point de vue philosophique, qu'est-ce que c'est que le Christ? Un sage. Un sage étonnant. Un sage merveilleux. Qui, comme Socrate, a été fidèle jusqu'au bout en acceptant la mort. Dans ce sens-là, il y a quelque chose de semblable. Tous les deux, j'allais dire, meurent pour montrer qu'ils sont consacrés dans la vérité. C'est la grandeur de Socrate, c'est le grand mystère de Jésus. Consacre-les dans la vérité. Et lui s'est consacré dans la vérité. Alors, comme on ne peut pas prouver l'existence de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les convenances. Les convenances de l'incarnation. Et ces convenances de l'incarnation dépendent, sont vues dans un regard de sagesse. C'est la sagesse. Et j'essaie de comprendre les convenances. C'est très beau, ça, vous voyez. C'est l'analogue des voies d'accès à l'égard de Dieu dans Te Deum. C'est l'analogue. Je mets mon intelligence au service du mystère en l'enveloppant. C'est pour ça cette question de la convenance. Là aussi, c'est une question centrale, analogue à celle des voies d'accès. Est antérieure. Je peux faire tout mon traité sans regarder ça. Mais la fine pointe, je ne la comprends plus. Je peux faire tout mon traité des théodos sans regarder les voies d'existence de Dieu. Mais quantité de théologiens ont fait ça. Ils n'ont pas compris ce que c'était que les voies d'accès. Alors ils n'ont pas parfaitement compris comment Dieu existait. Vous ne pouvez pas. Comme quand je ne regarde pas les voies de convenance, je ne peux pas saisir vraiment le mystère de l'incarnation. Et dans les voies de convenance, Satan va montrer que c'est la bonté de Dieu. La bonté fait partie de la sagesse. Puisque le propre du bien et de se diffuser. Bono diffusivo. C'est un axiome. Le bien est ce qu'il divise. Saint Thomas se saisit de cet axiome. Le bien se diffuse le plus. Pour montrer qu'étant donné que nous sommes en présence de la souveraine bonté de Dieu, présence de la souveraine bonté de Dieu dans la sagesse. On montre par là combien il était convenable, convenience, le mystère de l'incarnation. Puisque Dieu, étant la bonté souveraine, n'a qu'un seul désir, c'est de se communiquer le plus qu'il peut. Donc, le souci principal de Thomas d'Aquin dans cette première partie sur le mystère du Christ, ce sera de montrer comment on est en présence de la communication la plus parfaite de Dieu. Et tout est ordonné à ça, si on est un petit peu intelligence, à travers les définitions dogmatiques. Il ajoute une lumière que les définitions dogmatiques ne donnent pas. Toutes ces conclusions, qui sont de foi, doivent être vues à travers la bonté de Dieu qui se communique autant qu'elle peut et autant que je veux. Deuxième attitude qui commande tout ce traité, cette vision théologique sur le mystère de l'union hypostatique, c'est d'essayer de préciser. C'est vrai, la bonté se diffuse le plus qu'elle peut, mais il y a une raison spéciale pour laquelle Dieu s'est communiqué. Il s'est communiqué pour être sauveur. L'agneau. Et prendre la place du pécheur. Puisque sauver quelqu'un peut se faire de diverses manières. Je te donne la main, viens. Suis-moi. Et prenez toujours la différence dont un père n'a qu'à regarder ça. Un père se penche vers son petit fiston, qui est tombé. Allez, donne-moi la main. Le gosse, il un père prend la main, puis bon. Comment une mère ramasse son enfant tombé? Elle se penche, elle le prend. C'est très significatif, ça. Oui, parce que ça montre que la bonté de Dieu est une bonté maternelle qui enveloppe tout. C'est la bonté qui se communique. Et cette bonté maternelle est aussi une bonté virile, forte. Elle se fait par la croix. Il est sauveur, crucifié. Il a pris la place du misérable. Eh bien, tout le traité de saint Thomas est commandé par ces deux visions. Il est venu pour nous sauver. Et donc, il a pris la place. Il est l'agneau. Mais il est en même temps le Verbe devenu chair. Il est le grand prêtre. Mais vous retrouvez grand prêtre et victime tout de suite des deux aspects. Comment tout se traiter de saint Thomas? Alors je t'en donne un signe, c'est que saint Thomas montre dans l'épreuve de la convenance qu'il est venu pour nous sauver. C'est l'Écriture qui le dit. Parce que saint Thomas se trouve en face de certains qui disent que le Christ serait venu même s'il n'y avait pas eu de péché, uniquement pour achever la création. Comprenez bien, comme finalité, c'est tout à fait différent. Est-ce que le Christ est venu pour achever la création, ou est-ce que le Christ est venu pour nous sauver? Si le Christ était venu pour achever la création, le mystère de l'incarnation n'aurait pas été comme ça. S'il vient pour nous sauver, le mystère de l'incarnation implique que le Christ est capable de souffrir. Implique que le Christ est capable de mourir, implique que le Christ a une connaissance parfaite de ce qui va lui arriver. Oui, donc tout le traité de l'incarnation de saint Thomas est commandé par le voie de la finalité. Il est venu pour nous sauver. Tandis qu'il était venu pour achever la création,